Chapitre 45. Dans la ville déserte, le bruit des sabots de Sadine, le cheval de Nietzsche, se répercutait de rue en rue, rebondissant contre les façades des bâtiments vides. Certaines fenêtres étaient occultées par des volets aux couleurs vives, d'autres restaient simplement entrebâillées, comme si les habitants s'étaient absentés pour quelques heures. Au deuxième et dernier étage de la plupart des maisons, des petits balcons aux balustrades en fer forgé surplombaient les rues pavées. Sur une corde à linge tendue entre deux maisons, des pantalons séchaient depuis des semaines. Oubliés par leur propriétaire, ils resteraient là jusqu'à son très improbable retour. Pas un souffle de vent ne faisait frémir les vêtements abandonnés. Le silence était si profond qu'il en devenait oppressant. Avancer dans une cité déserte avait quelque chose d'irréel, comme s'il s'était agi d'une coquille vide, désormais privée de tout ce qui lui donnait son sens. C'était un peu comme voir le cadavre d'un être aimé. La vie aurait dû être là, faisant briller son regard et pétiller son sourire, mais rien ne se produisait et cette immobilité ne laissait aucun doute sur la terrible vérité. Comme une dépouille humaine, la cité d'Aïdindril, si on ne faisait rien, finirait par se décomposer pour sombrer dans l'oubli. Entre les bâtiments, Nietzsche apercevait parfois un fragment des murailles noires de la forteresse du sorcier. Taillé dans le flanc même de la montagne, l'immense complexe faisait penser à un oiseau de proie perché au sommet d'un arbre. Attendait-il de fondre sur la ville pour lui picorer la chair? Nietzsche s'était toujours douté que la forteresse lui paraîtrait sinistre et menaçante. Eh bien, elle ne s'était pas trompée. Mais elle devait se ressaisir, car ce lieu était en réalité pour elle un havre de paix qu'elle avait intérêt à rallier le plus vite possible. Le voyage depuis l'ancien monde n'avait pas été une partie de plaisir. Par moments, Nietzsche s'était demandé si elle parviendrait jamais à franchir les lignes ennemies, en fait, une succession de lignes parce que l'ordre impérial était partout. À d'autres occasions, elle s'était laissée aller à affronter ses troupes, faisant de véritables massacres. Un gaspillage de temps lorsqu'on regardait les choses froidement. L'ennemi était si nombreux que les pertes, même considérables, n'avaient aucun retentissement sur son potentiel de nuisance. Au mieux, l'effet d'armes de Nietzsche n'avait pas eu plus d'importance qu'une épidémie de peste, et encore, et ça la rendait folle de rage. Cela dit, son but était de rejoindre Richard, et les soldats ennemis n'auraient pas dû l'intéresser. Au terme d'un très long voyage, le lien qui l'unissait à Richard lui soufflait qu'elle approchait du but. Si elle n'avait pas encore trouvé le sorcier, cela ne tarderait plus beaucoup. Après leur séparation et avant qu'elle quitte à son tour Alter Rang, l'ancienne maîtresse de la mort s'était demandé si elle reverrait un jour son amie. La bataille pour Alter Rang avait été d'une extraordinaire violence. Après avoir essuyé de rudes coups alors que le soir tombait, les attaquants avaient réagi en soldats expérimentés et endurcis. Reprenant leur esprit, les cavaliers et les fantassins s'étaient regroupés et avaient tenté d'inverser l'issue de l'affrontement. Nietzsche avait toujours su que Jagang ne traiterait pas à la légère le soulèvement d'Alter Rang. Pourtant, elle avait été surprise par la compétence et la puissance des forces qu'il avait chargées de régler cette affaire. Avec l'aide d'un troisième sorcier, sorti d'on ne savait où, les soudards de l'ordre avaient bien failli avoir raison des défenseurs. À un moment, le cœur brisé, Nietzsche avait eu peur que le courage et l'indépendance d'esprit des habitants d'Alter Rang n'aient servi à rien. L'échec se profilait et avec lui, une ignoble succession de massacres, de viols et de pillages. Quelques heures durant, les défenseurs avaient cru qu'ils ne survivraient pas jusqu'au matin. Bien qu'elle fût blessée et fatiguée, Nietzsche avait puisé au fond d'elle-même des forces insoupçonnées. Évidemment, son amitié pour les défenseurs et les citadins l'avait stimulée, car elle ne voulait pas voir périr des innocents. Mais c'était surtout l'idée de ne plus jamais revoir Richard en cas de défaite qui lui avait donné le courage de se dépasser. Cette angoisse avait alimenté sa colère, lui donnant soif de sang ennemi. Le tournant de la bataille s'était produit alors qu'une partie de la ville était en feu. Debout sur une estrade, au milieu d'une place publique, le sorcier adverse incitait ses hommes à avancer. En même temps, il lançait des sorts qui faisaient des ravages dans les rangs des insurgés. Apparaissant tel un fantôme vengeur au milieu des soldats ennemis, Nietzsche les avait taillés en pièces pour se frayer un chemin jusqu'à l'estrade. Puis, d'un bond de félin, elle avait rejoint le sorcier sur son perchoir. Alors que tous les regards étaient braqués sur elle, la magicienne avait profité de la surprise générale pour ouvrir la poitrine du sorcier d'un coup de couteau et lui arracher le cœur à main nue. Devant les soudards stupéfaits, elle avait levé au ciel son sanglant trophée. À cet instant précis, Victor Casquella et ses hommes avaient chargé les soudards. Le forgeron était foudrage. En partie parce que les sbires de Jagang se préparaient à massacrer des innocents, mais aussi parce qu'ils voulaient le priver de la liberté qu'il avait durement gagnée. S'il avait eu le don, son regard aurait suffi à couper en deux les bouchers adverses. Mais même sans magie, son attaque surprise avait eu des effets dévastateurs sur les agresseurs. Après la mort du sorcier, cette démonstration de force, une pure provocation en réalité, avait eu raison de leur courage. Condamnés à périr sous les coups d'un forgeron fou ou d'une magicienne enragée, ils avaient prudemment choisi la fuite. Faisant demi-tour, les troupes d'élite de Jagang avaient tenté de quitter la cité. Au lieu de les laisser fêter leur victoire, Nietzsche avait ordonné aux défenseurs de poursuivre les fuyards et de les abattre jusqu'au dernier. Il était capital qu'aucun survivant n'aille faire son rapport à Jagang. Furieux que sa ville natale se soit révoltée, il brûlait sûrement d'envie de savoir que l'insurrection avait été noyée dans le sang, car seul un massacre pouvait assurer que d'autres villes ne tenteraient pas l'aventure de la sécession. Même s'il s'attendait à un triomphe, l'empereur n'aurait pas été abattu par l'annonce d'un désastre. Quand on guerroyait, il fallait accepter de perdre et savoir tirer une leçon de chaque défaite. Jagang n'était pas un grand chef militaire pour rien. Afin d'assurer la victoire, il aurait envoyé plus de troupes, plus de sorciers et plus d'officiers préparés à rencontrer une résistance acharnée. Nietzsche était bien placé pour connaître le chef de l'ordre impérial. Il se moquait de la vie de ses soldats et de quiconque d'autre d'ailleurs. Lorsque des combattants de l'ordre tombaient au champ d'honneur, il fallait les envier car leur véritable récompense les attendait dans l'après-vie. En ce monde, on pouvait seulement se sacrifier pour autrui, et c'était déjà pas mal. Pour en revenir à Jagang, les choses seraient radicalement différentes s'il ne recevait plus la moindre nouvelle de la bataille d'Alterang. L'empereur détestait être dans l'ignorance. Ne pas savoir le rendait foudrage. Après avoir envoyé des troupes d'élite et trois sorciers, l'absence de message lui paraîtrait vite intolérable. Perdre des hommes ne l'empêchait pas de dormir, mais rester dans l'inconnu était au-delà de ses forces. Au bout du compte, n'avoir aucune nouvelle de son corps expéditionnaire terroriserait Jagang bien plus qu'une simple défaite. Plus superstitieux encore que leur chef, les soldats s'inquiéteraient beaucoup de ce qu'ils prendraient pour un mauvais présage. Au sortir d'un détournant de la voie pavée qu'elle remontait, Nietzsche découvrit entre deux immeubles une vue d'une beauté qui lui coupa le souffle. Dans le lointain, sur une colline illuminée par le soleil, au milieu de magnifiques jardins, se dressait un superbe palais de marbre blanc. D'une élégance hors du commun, cet édifice fier, fort et imposant possédait également une grâce des plus féminines. C'était le palais des inquisitrices, bien entendu. Derrière, comme un spectre, la forteresse du sorcier semblait vouloir jaillir du flanc de la montagne pour prendre son envol. À l'évidence, le complexe noir et menaçant avait été conçu pour être l'antithèse parfaite du palais et dissuader quiconque de l'attaquer. Pendant des millénaires, le chef-d'œuvre de marbre blanc avait été le cœur du pouvoir dans les contrées du milieu. Entre ses murs, la mère inquisitrice régnait sur ses consœurs et dirigeait le grand conseil. Tous les monarques des contrées s'inclinaient devant la femme en robe blanche. De là où elle était, Nietzsche ne voyait pas les ambassades qui s'alignaient sur la voie menant au palais. Mais elle devinait qu'aucune n'égalait la taille et la splendeur du fief de la mère inquisitrice. Soudain, un mouvement attira l'attention de Nietzsche. Sur sa gauche, une colonne de poussière montait dans l'air, presque droite à cause de l'absence de vent. La magicienne tira sur les rênes de Sadine, qui se laissa docilement orienter dans la direction souhaitée. Serrant les genoux contre les flancs de l'animal, Nietzsche le fit passer au petit galop. Alors qu'il s'engageait dans une rue latérale, elle vit de nouveau la colonne de poussière entre deux bâtiments. Quelqu'un galopait ventre à terre vers la montagne où se nichait la forteresse. Grâce au lien, Nietzsche sut tout de suite de qui il s'agissait. La magicienne avait pris tous les risques pour sauver Alter Rang le plus rapidement possible et pouvoir se lancer sur la piste de son ami. Par indifférence vis-à-vis des citadins? Sûrement pas. Un grand nombre d'entre eux étaient désormais ses amis et elle ne les aurait trahis pour rien au monde. Parce qu'elle se fichait d'éliminer les brutes venues mater la révolution? Encore moins puisqu'elle était une des premières à avoir compris la nécessité de se rebeller. En fait, la réponse était très simple. Tout ce qu'elle venait d'évoquer comptait pour l'ancienne maîtresse de la mort, mais pas au point de devenir plus important que Richard. Au début, Nietzsche avait prévu de galoper jour et nuit pour rattraper le sourcier et sa garde du corps. Très vite, elle avait compris que les deux voyageurs avaient trop d'avance sur elle. Quand Richard avait une idée en tête, il ne s'arrêtait même plus pour souffler. Pour le rejoindre, avait compris Nietzsche, le poursuivre ne servirait à rien. Sa seule chance était de prévoir où il irait après avoir vu Chota et de l'y précéder. Ou au moins d'y arriver en même temps que lui. Sachant que la voyante ne pourrait pas aider Richard à retrouver une chimère, il n'avait pas été difficile de deviner sa destination suivante. Après Chota, il voudrait consulter un sorcier, et le seul qu'il connaissait, Zed, était retourné dans sa forteresse d'Aïdindril. Nietzsche ayant évité le détour par la longe d'Agaden, elle avait eu moins de chemin à faire que son ami, et aujourd'hui elle était récompensée de son initiative. Alors qu'elle sortait de la cité, Nietzsche eut une vue d'ensemble sur le paysage. Aussitôt, elle repéra Richard. Kara et lui gravissaient une route en soulevant un énorme nuage de poussière. Parti d'Alter Rang avec 6 montures, il n'en avait plus que 3. Aller voir galoper Nietzsche ne s'en étonna pas. Quand le sourcier était pressé, il pouvait très bien pousser une bête au-delà de ses limites. Lorsque Nietzsche se lança au galop, Richard l'aperçut du coin de l'œil. Levant une main, il fit signe à Kara de ralentir le rythme. L'ancienne maîtresse de la mort talonna sa monture. Elle passa devant des paddocks, des écuries, des ateliers, des échoppes, une forge et enfin de grands pâturages jouxtant des étables vides depuis longtemps. Puis, elle s'engagea sur la route bordée de grands chênes blancs. Nietzsche vibrait de joie à l'idée de revoir Richard. Dès qu'elle l'avait aperçu, sa vie avait recouvré un sens. Pendant leur séparation, sa rencontre avec la voyante l'avait-elle convaincu que l'épouse dont il se souvenait était une illusion? S'il ne délirait plus, il devait être redevenu lui-même, n'est-ce pas? Mais dans ce cas, pourquoi serait-il venu jusqu'ici alors qu'il avait tant de choses plus urgentes à faire? Depuis le départ du sourcier, Nietzsche avait repensé à toute cette affaire avec l'intention de découvrir la cause des troubles mentaux de son ami. Sur la route d'Aïdindril, elle avait émis une inquiétante hypothèse. Après l'avoir examinée en détail, il lui était apparu que cette théorie pouvait bien être juste. La cause du mal, c'était peut-être elle. Pour le sauver, elle avait dû agir très vite. Et les gens qui se pressaient autour d'elle l'avaient déconcentrée. Craignant que l'ennemi attaque, elle avait quand même continué. Plus grave encore, elle avait tenté dans ces conditions une manœuvre dont elle n'avait jamais entendu parler. La magie soustractive était censée détruire, et elle était sans doute la première à l'avoir utilisée pour guérir. Mais en l'absence d'autres solutions, et considérant l'état de Richard, il avait fallu tenter le tout pour le tout. En jouant les apprentis sorcières, Nietzsche avait peut-être semé le trouble dans la mémoire de Richard. Si c'était à elle qu'il devait ses fantasmes, jamais elle ne se le pardonnerait. Si elle s'était trompée, éliminant avec la magie soustractive certaines zones de son esprit, par exemple l'aptitude à distinguer l'imaginaire du réel, les dégâts seraient irréversibles. Les effets de cette magie étaient comme la mort, absolument définitifs. Si elle avait endommagé le cerveau de Richard, il serait à tout jamais incapable de reprendre sa place dans le monde. Perdu dans ses rêves, il sombrerait dans l'oubli et la folie. Tout ça par la faute de Nietzsche. Cette idée lui donnait envie de mettre fin à ses jours. Richard et Kara s'étant arrêtés pour l'attendre, la magicienne tira sur les rênes de Sadine pour qu'il repasse au petit galop. Voir Richard faisait bondir de joie le cœur de Nietzsche. À part ses cheveux qui avaient un peu poussé, il était tel qu'en lui-même. Grand, puissant, beau, animé par une détermination d'acier. Un guerrier au regard vif auquel rien n'échappait. Bref, et malgré ses vêtements de voyage poussiéreux, le seigneur râle dans toute sa majesté. Et pourtant, il semblait que quelque chose n'allait pas chez lui.
« Richard !»
cria Nietzsche. Assez stupidement, se dit-elle, puisqu'il l'avait repéré depuis longtemps. Une fois arrivée au niveau du sourcier et de la mordecite, elle tira sur les rênes de sa dîne qui s'arrêta en soulevant un fantastique nuage de poussière. Après l'avoir entendu crier, Richard et Cara pensaient visiblement que la magicienne avait une extraordinaire nouvelle à leur annoncer.
« Je suis contente que vous alliez bien tous les deux, »
dit-elle un peu piteusement. Satisfait qu'il n'y ait pas de catastrophe, Richard posa les mains sur le pommeau de sa selle. « Content de voir que tu vas bien aussi, » répondit le sourcier. Son sourire prouvait qu'il ne mentait pas. Même si elle avait envie de crier de joie, Nietzsche parvint à se contenir.
« Bien le bonjour, »
marmonna Kara, très droite sur sa selle. « Comment se sont passées les choses en Alterang ?» demanda Richard.
« Nous avons éliminé la menace, »
répondit Nietzsche en tirant sur les rênes de sa dîne, très excitée après une telle cavalcade.
« La ville est pour l'instant en sécurité. Victor et Ishak m'ont chargé de te dire qu'ils sont libres et qu'ils ont bien l'intention de le rester. »«
Tu m'envoies ravi. Nietzsche, je me suis fait du souci pour toi. »«
C'était inutile, je vais très bien. » »«
Vraiment ? Il s'était inquiété ?»
Le cœur en fait, Nietzsche en oublia de mentionner les diverses blessures qu'elle avait récoltées. Tout ça ne comptait plus puisqu'elle était de nouveau avec Richard. Cela dit, il paraissait là, comme si Kara et lui n'avaient pas beaucoup dormi pendant leur voyage. Soudain, Nietzsche comprit ce qu'elle trouvait étrange dès qu'elle posait les yeux sur Richard. Il n'avait plus son épée.
« Richard ? Où ?»
Placé derrière le sourcier, Kara jeta un regard noir à Nietzsche et se plaqua un index sur les lèvres. Une manière très directe d'avertir la magicienne qu'elle devait ravaler sa question.
« Où sont les autres chevaux ?»
improvisa Nietzsche. Le sourcier soupira. À première vue, le manège de la magicienne lui était passé bien au-dessus de la tête. « J'ai peur de les avoir un peu trop poussés. Certains se sont mis à boiter et les autres sont morts d'épuisement. Nous avons dû nous en procurer de nouveaux en chemin. Ceux-là viennent d'un camp de l'ordre près de Galéa. Jagang a des troupes dans toutes les contrées du milieu. Nous en avons profité pour nous procurer des vivres et des montures fraîches. »
Kara eut un sourire satisfait. Nietzsche se demanda comment Richard avait réussi tout ça sans son épée. Puis, elle se fustigea d'avoir pensé une ânerie pareille. L'épée n'était qu'un outil, il n'en avait pas besoin pour être lui-même.
« Et la bête ?»«
Eh bien, nous l'avons croisée une ou deux fois. »
Nietzsche trouva quelque chose d'inquiétant dans cette déclaration faussement nonchalante.
« Vous l'avez croisée, dis-tu ? Dans quelles circonstances ? Et que s'est-il passé ?
On s'en est sorti, c'est l'essentiel, nous en reparlerons plus tard. »
Nietzsche lut dans le regard du sourcier qu'il n'était pas d'humeur à subir un interrogatoire en règle.
« Pour l'instant, nous devrions continuer notre chemin. »«
Et la voyante ?»
demanda Nietzsche. Elle talonna Sadine qui alla se placer à côté du cheval de Richard et adopta la même foulée.
« Que t'a-t-elle dit ? Qu'as-tu découvert ?»«
Selon Chota, ce que je cherche est depuis longtemps enterré. »
Richard se plongea un moment dans ce qui semblait être une sombre méditation.
« Que te disent les mots « la chaîne de flammes »?«
Rien du tout. » »«
Et « profond néant », ça te dit quelque chose ?»«
Encore moins. De quoi s'agit-il ?»«
Je n'en ai pas la moindre idée. » Mais Zed aura sûrement des réponses. Allez, ne perdons plus de temps. »
Richard lança son cheval au petit galop. Intrigué, Nietzsche talonna Sadine qui emboîta le pas à son congénère.